cours de théologie naturelle par le Père Marie-Dominique Philippe, le 4 mai 2001 à Saint-Jean-d'Arc.
C'est par rapport au cours d'hier. Pourriez-vous revenir sur ces deux regards différents sur la personne humaine, comme le comment parfait de l'être, étudié à la lumière des principes propres de l'être, comme créé et conduite par Dieu dans la lumière du Dieu créateur, de l'acte créateur. Vous voyez, là, chaque fois que nous creusons en philosophie un principe, que nous découvrons un principe, le principe, c'est une pénétration plus profonde dans la réalité. L'homme, par son âme, a une substance. Cette substance est faite pour découvrir la vérité par l'intelligence et aimer le prochain, l'autre, l'ami, par la volonté. Ceci avant la découverte de l'existence de Dieu. Quand je termine l'analyse proprement dite de ce qui est en tant qu'être, je découvre la substance et l'être en acte, et je me pose la question, comment se réalise en moi cette substance et cet acte. Vous voyez, c'est le pose, le comment. Je ne reste jamais dans la saisie des principes. La saisie des principes, c'est pour saisir la réalité en profondeur. Je ne veux pas contempler la substance. Pas de contemplation de la substance. Pas de contemplation de l'âme. Je saisis au contraire ce qu'elle est, tiesti, selon la cause formelle, ce qu'elle est. Le tiesti, selon la cause finale, j'ai les substances et l'être en acte. Et je vois l'harmonie qu'il y a entre mon âme et la finalité, recherche de la vérité, l'amour d'amitié. Et je vois par le fait même que la personne humaine a 6 dimensions. Puis, je découvre l'existence de Dieu. Par la voie de la finalité, de l'être en acte et de l'amitié. Ayant découvert l'existence de Dieu, je me pose la question, quel rapport y a-t-il entre Dieu et ma personne. Dieu est créateur de mon âme, créateur donc de ma personne. Et je découvre à ce moment-là la 7e dimension de la personne humaine. elle reconnaît qu'elle est faite pour adorer Dieu, le connaître et l'aimer. Donc, le contempler autant qu'elle peut. J'ai donc deux visions de la personne humaine. Une première vision purement métaphysique. Une seconde vision en théologie naturelle. Oui. Première vision, le pos de l'être. Voyez, on verra la différence entre le pos et la propriété. Le pos de l'être. Le pose de l'être que je peux connaître, l'être le plus parfait que je rencontre, dont j'ai l'expérience, c'est l'homme. Je n'ai pas d'expérience philosophique de l'ange. Je ne peux pas dire que l'ange, c'est mon copain, c'est l'autre. Non. Philosophiquement, je ne connais pas mon ange. Et je n'ai pas encore découvert Dieu. J'ai le pouce de la personne humaine, six dimensions. L'âme, son autonomie. Recherche de la vérité. L'amour. La prudence. L'art. Et le corps. Voilà mes six dimensions de la personne humaine. En harmonie, hein. L'harmonie entre la recherche de la vérité et l'amour. Il y a une harmonie. Il y a une possibilité d'avoir ce contrôle de moi-même par la prudence. Il y a une possibilité de modifier mon milieu par l'art. Je me crée une petite maison, une hutte. Je me mets derrière, en dessous des arbres, à l'abri. Et puis, je complète cet abri en mettant une étoffe au-dessus de la tête. Tout ça se fait artistiquement. Je fais ma maison, je fais la grotte où habiter. Ça fait partie de la personne, ça. La philosophie de l'art, qui est la philosophie du travail, est essentielle à l'homme. Et j'ai ce regard sur mon corps qui est mon conditionnement substantiel. Je porte, comme certains animaux, vous savez, ils portent leur maison au-dessus d'eux. Ma première maison, c'est mon corps. C'est ma maison, la maison de mon âme. Et par l'essence, mon âme dit bonjour. Mon âme serre la main à mon voisin par mon corps. C'est ma maison. C'est mon, et en même temps mon conditionnement. Et quelquefois ce conditionnement devient tellement fort que cette maison devient une prison, une pierre tombale. Platon dit que le corps est la pierre tombale de l'âme. Hein ? Et ça existe. Quand on voit le Saint-Père avec sa maladie, le corps est vraiment une pierre tombale. Il ne peut plus que faire certains gestes. Quand on est paralysé, on ne fait plus que certains gestes. Quand on est jeune, alerte, on ne voit pas que le corps est pierre tombale. On voit que le corps est un conditionnement substantiel, mais complètement dépassé. Vous faites ce que vous voulez. Et quand on est un pays de montagne et qu'on voit les gosses à 10 ans, 12 ans, faire du ski, ils arrivent à faire des moulinets en ski. Qu'une grande personne fasse ça, non. Vous voyez, la maison devient de plus en plus rigide. Des petits Japonais ont une souplesse du corps extraordinaire. Ils l'entretiennent. Ça fait partie de la gymnastique. La gymnastique, c'est assouplir la maison. Conditionnement. Bon. Et vous avez la première vision de la personne. Mais ce n'est pas suffisant. Ma philosophie, ma métaphysique me conduit à découvrir l'être premier. L'être premier, pour moi, ne m'est pas indifférent. C'est pas l'autre totalement différent. Non. C'est l'autre qui est mon créateur, qui est ma source. Et dès que je le découvre, je découvre une nouvelle dimension à ma personne. Je peux regarder le créateur de mon âme. Et c'est l'aspect de l'homme religieux. C'est la 7e dimension. Cherchez bien et vous trouverez que c'est la 7e dimension. Oui. Et le chiffre de la bête, c'est 6-6. Hein. Faut pas oublier. On reste au nom 6. Et on ne veut pas. Et la laïcité, c'est le chiffre 6. C'est le chiffre de la bête. 6-6-6. Et on trouve que c'est complet. Et on se répète 3 fois. La 7e, c'est l'adoration. Reconnaître qu'on est une créature. Donc vous voyez, les deux regards, un regard qui s'arrête à l'analyse métaphysique de l'être, et un regard qui se fait à partir du Dieu créateur, sur moi. Et c'est le premier regard du Dieu créateur. Dieu n'est pas indifférent à ma personne. Il montre ma personne dans une dimension nouvelle, celle d'être une créature. Je vois ça en premier lieu pour la personne. Je pourrais le voir pour la liberté. Quand je reste au nombre 6, ma personne, elle a 6 dimensions. Je découvre la liberté que je peux avoir philosophiquement. Et je découvre ensuite la liberté au niveau jugement de sagesse. Où, dans la lumière du Dieu créateur, je découvre que Dieu, créant des âmes spirituelles, donne à ces âmes spirituelles une liberté. Et que cette liberté est nécessaire au développement de l'amour. L'amour exige d'être libre. C'est pour ça que quand il y a une espèce de volonté tyrannique, tu dois faire ça, et que ça vient trop tyrannique, vous supprimez l'amour. Vous faites ça par crainte. Il y a deux éducations. L'éducation par amour du Dieu créateur Et l'éducation par mode de crainte. Tu ne dois pas faire ça. Tu ne dois pas faire ça. Tu ne dois pas faire ça. C'est la négation qui est première. Et la première tentation, elle l'a su. Quand je regarde bien l'écriture, c'est ça la première tentation. Tu te crois libre, mais pas du tout, regarde. Oui. On passe d'une éducation qui se fait avec Dieu, dans la liberté avec Dieu, et le démon tente pour montrer que pas du tout. En réalité, tu es prisonnier. Voilà les deux regards. Sur quoi repose l'intelligibilité parfaite ? Il semble que ce ne soit pas sur l'absence de potentialité, puisque les anges ont une potentialité par leur création. Eux qui ont, d'après ce que vous avez dit hier, une intelligibilité parfaite. Oui. C'est sûr, vous pouvez prendre deux intelligibilités. L'intelligibilité conditionnée par la matière, et quand on est libre de la matière, on a une intelligibilité beaucoup plus parfaite. Mais elle n'est pas parfaite par rapport à Dieu. L'intelligibilité parfaite, c'est celle de l'être premier, celle de Dieu. Elle est absolue. Pouvez-vous préciser, Dieu ne crée pas la matière pure, mais avec la détermination, c'est mon intelligence qui la crée. Non, c'est ça, c'est, on ne peut pas dire ça. Dieu ne crée pas la matière pure, c'est sûr. Dieu ne crée pas séparément une matière pure. Ça, c'est inintelligible. Il crée toujours un être déterminé qui a une certaine potentialité ou matérielle ou essentielle. Vous voyez ? Alors, il y a deux potentialités différentes. La première potentialité, celle de la matière, se purifie de cette première potentialité. Dieu crée un être déterminé dans une matière. Donc la détermination étant reçue dans une matière possède en elle-même un lien avec la potentialité radicale de la matière. Et Dieu crée un être déterminé, non matériel, mais qui, puisqu'il est créé, est limité. Fini. Donc, il y a deux niveaux de la potentialité. Une potentialité au niveau de l'être, une potentialité au niveau de la matière. Tout être créé a une potentialité au niveau de l'être. Tout être physique a une potentialité au niveau de la matière. Il y a les deux potentialités. Alors, sur quoi repose l'intelligibilité parfaite ? L'intelligibilité repose toujours sur l'être. Un être parfait, acte pur, a une intelligibilité parfaite. Un être composé de matière et d'essence a une potentialité limitée, une intelligibilité limitée. L'intelligibilité pure, parfaite, c'est Dieu. Mais pour moi, cette intelligibilité n'est pas connue directement. Elle est connue analogiquement, toujours par l'intermédiaire d'un autre, parce qu'elle est trop lumineuse pour moi. En découvrant l'existence d'un être premier, je découvre l'intelligibilité d'un être pur, et donc une intelligibilité pure, mais que je ne comprends pas. Je n'ai pas de concept de Dieu, je n'ai pas de concept de l'intelligibilité pure, mais j'ai un jugement, et je pose qu'il existe. Et en posant qu'il existe, je pose un être dont je n'ai pas de concept. Je n'ai qu'une connaissance analogique de cet être. C'est suffisant pour poser la nécessité de son existence. Donc l'intelligibilité repose toujours sur l'être. L'être, tout ce qui est intelligible, mais avec des degrés différents. Alors, si vous voulez, maintenant nous passons, c'est pas ce que nous verrons, puisque nous resterons au jugement de sagesse en philosophie, mais c'est important pour nous de comprendre le jugement de sagesse en théologie. Il y a trois sagesses. Alors, il y a trois sagesses. Vous pouvez le comprendre vous-même. Si vous ne le comprenez pas vous-même, vous vous appuyez sur Thomas d'Aquin. Vous vous appuyez sur l'encyclique du pape. Foi et fidélité, fides et ratio. Il y a trois sagesses. La sagesse philosophique qui naît au moment où mon intelligence est capable de découvrir la nécessité de poser l'existence d'un être premier. Tant que je n'ai pas découvert cette existence de l'être premier, je suis dans une recherche scientifique. Tout être limité peut être analysé. Et pour le connaître scientifiquement, je dois l'analyser selon les diverses causalités ou selon les lois. Quand je découvre Dieu, je découvre un être parfait, inanalysable. Il est absolument simple. S'il est absolument simple, je ne peux pas l'analyser. Il échappe à toute analyse. J'affirme qu'il est et je contemple. Dieu, vous ne le connaissez que par la contemplation. Vous acceptez qu'il vous dépasse, qu'il dépasse votre connaissance scientifique et qu'il ne peut être connu que dans une connaissance analogique. La foi me permet d'adhérer directement à Dieu qui me parle. La foi me permet de distinguer la parole de Dieu de la parole humaine. La parole humaine me conduit à découvrir l'autre, c'est un maître, c'est un ami. Et la parole divine me permet d'adhérer à Dieu qui me parle. La parole vivante, la parole de Dieu est vivante parce qu'elle est toujours liée à sa source. Donc, quand je fais un acte de foi, me servant de la révélation, je peux faire un acte de foi en Dieu lui-même, mais je me sers toujours de sa parole. Je me sers toujours du Christ. Par l'humanité sainte du Christ, je crois en Dieu. J'adhère à Dieu. J'adhère au Verbe de Dieu. L'adhésion de foi est une adhésion à un mystère divin qui me dépasse, qui me transcende. La parole de Dieu, je la reçois dans sa signification profonde. J'adhère par cette parole au mystère de Dieu. En adhérant au mystère de Dieu, j'adhère à un absolu qui est éternel. Donc, la différence entre le jugement d'existence philosophique où j'adhère à l'existence d'un être contingent. Toutes les réalités que vous expérimentez sont contingentes. Elles sont limitées. Elles sont dans le temps. Elles sont corruptibles. Par la foi, vous adhérez à une réalité qui est éternelle. Par la parole divine, vous adhérez à Dieu qui me parle. J'adhère à une réalité éternelle. Je ne m'évade pas du temps, mais je dépasse le temps pour adhérer à l'être divin. Pas seulement adhérer à une existence parfaite, mais adhérer à Dieu. Par le fait même, la connaissance de foi est sapientiale. Elle me fait adhérer à Dieu. Tout croyant, en tant que croyant, est un sage. Mais en tant que croyant, un sage dans l'obscurité, puisque mon adhésion de foi reste obscure, mais un sage. C'est pour ça que le croyant est un presbytre, un ancien, un vieillard. L'Apocalypse se montre bien, les 24 vieillards. Et ceux qui croient. La petite Thérèse de l'enfant Jésus, par sa foi, elle est sage. Un garde de sagesse. Alors, comprenez bien Qu'est-ce que c'est que la théologie ? C'est le croyant qui adhère à la parole de Dieu et qui se sert de la philosophie pour expliciter toute l'intelligibilité qui est dans la parole de Dieu. Pour expliciter divinement ce contenu de la parole de Dieu. En tant qu'il explicite ce contenu de la parole de Dieu, il peut avoir deux regards sur cette explicitation. Regard de théologien et un regard de croyant. C'est ça qu'il faut bien saisir. Quand on dit que la théologie est subalternée à la connaissance des saints, exactement, dit cela dans la question sur ce que c'est que la théologie. Et très souvent, aujourd'hui, on ne pense absolument plus à cette affirmation que la théologie est une science subalternée. Une science subalternée, c'est une science qui ne tient pas par elle-même. Elle est science grâce à une science supérieure. Elle n'a pas d'autonomie absolue. On voudrait que la théologie ait une autonomie par elle-même. Et on ne voit plus qu'elle est subalternée. C'est la tendance aujourd'hui constante. La subalternation à la science des bienheureux est télescopée. On n'en parle plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? On s'intéresse uniquement à l'explicitation et on perd le jugement d'existence. Et on tombe très vite dans le comment du théologien et non plus dans la finalité du théologien. Le regard du comment du théologien, c'est s'intéresser uniquement à la conclusion du théologien. Je regarde la grâce comme un habitus entitatif. Quelque chose qui vient s'ajouter à ma nature humaine. Ce n'est pas une substance, c'est un accident. Et l'accident le plus noble, c'est un habitus. Donc c'est un habitus. C'est une conclusion, ça, scientifique. De la théologie. Et je ne remonte plus à la source. Alors que le jugement de sagesse en théologie, c'est cette conclusion que j'ai, la ramener à sa source. Puisque c'est par sa source que la théologie est sapientiale, c'est-à-dire par la foi. La théologie, en tant que connaissance de foi, est sapientiale. Donc, sa conclusion, je peux la regarder en elle-même, formellement en elle-même, et je peux la regarder dans le jugement de sagesse. Et je reviens à cette origine. À ce moment-là, j'ai une théologie qui est digne. Digne de ce qu'elle est, c'est-à-dire par la foi, elle touche le mystère de Dieu et elle reste fixée au mystère de Dieu. Autrement dit, la foi est plus importante que la conclusion théologique. La foi à une noblesse divine, la conclusion théologique à une noblesse humano-divine. Il y a une mixture. Alors, cette mixture est très intéressante si je comprends que je ne peux jamais quitter cette origine divine. Et si j'ai cette conclusion qui est intéressante, je la replonge dans son origine. Je vais vous donner comme exemple le mystère de la grâce. Je peux regarder le mystère de la grâce comme habitus entitatif. Je peux regarder la grâce comme une naissance, Nicodème. Pour bien comprendre cette naissance, il faut justement voir que je suis né avant. On baptise quelqu'un qui est né, quelqu'un qui vit. On ne baptise pas un mort. Baptise quelqu'un qui vit. Alors, je peux m'arrêter à la conclusion pour elle-même, c'est très intéressant, habitus entitatif. Très bien. Mais je peux remonter à la source. J'ai fait cette étude philosophique, théologique, de voir que la grâce est un habitus entitatif, je regarde comment Jésus me montre la grâce à un docteur en théologie. Il dit que c'est une naissance. Si c'est une naissance, ça aboutit à un être vivant, nouveau. Donc, la grâce a ce pouvoir d'être pour moi un principe de vie. Et étant pour moi un principe de vie, elle fait de moi un fils de Dieu. Elle se termine à la personne divine en moi. Donc, la théologie qui revient à l'écriture est sapientiale. C'est le jugement de sagesse qui compte. La théologie qui reste dans la conclusion de la science est scientifique. J'espère que vous voyez bien la distinction. Et je prends le point de vue de la grâce et de la nature parce que c'est fondamental. Jésus aurait pu parler à Nicodème d'autre chose. Pourquoi Jésus parle à Nicodème de cette naissance nouvelle? parce que c'est fondamental, et parce que Jésus savait que ce grand théologien restait dans la science. Il était très heureux de regarder tous les passages de l'Écriture qui nous montraient ce lien que j'ai avec Dieu. Mais il s'intéressait plus à ce que la grâce me donne que ce vers quoi la grâce me mène. Par la grâce, je possède une qualité nouvelle. Par la grâce, je suis ordonné à la vision béatifique. Je peux regarder la grâce en tant qu'elle m'ordonne à la vision béatifique, et donc en tant qu'elle vient préciser, actuer le désir fondamental de mon intelligence, connaître la vérité. La grâce va me permettre de vivre pleinement de ce que Dieu m'appelle, chercher la vérité, m'appelle en premier lieu. Vous voyez, c'est très important de comprendre cette distinction, parce que très souvent le théologien s'intéresse plus à la découverte qu'il fait qu'à la parole de Dieu, source de cette découverte. La découverte qu'il fait, c'est lui qui l'a fait. C'est son œuvre. La parole de Dieu, il la reçoit gratuitement. Alors on a des théologiens qui s'intéressent avant tout à leur petite découverte. C'est normal, hein ? C'est humain, ça. Quand on a fait une petite découverte, on l'aime comme son fils. Et donc on l'aime qu'elle soit bien faite. Et on vient la finir. On s'intéresse à ça avant tout. Alors que non, la théologie est faite pour qu'on vive plus profondément de sa foi. Pour que la parole de Dieu pour nous soit une parole plus vivante. Et donc plus sapientiale. Soit riche de cette découverte théologique, mais la richesse de cette théologie, la richesse de cette découverte théologique est moindre que ce que la parole de Dieu porte en elle-même. Et c'est pour ça que la théologie, quelquefois, diminue la foi, alors qu'elle devrait augmenter la foi. Elle diminue la foi quand on regarde plus la conclusion que la source. On est plus intéressé à la conclusion qu'à la source. Alors, progressivement, la théologie diminue la foi. On s'intéresse davantage aux disputes théologiques, à la manière de répondre à ces disputes, la source, Dieu qui me parle. Si je comprenais vraiment ce que c'est que la parole de Dieu, c'est le pain que Dieu me donne. Je suis nourri divinement J'aimerais mieux saisir ce pain dans toute sa force, dans toute son intelligence, dans toute sa vertu, que de saisir la conclusion. La conclusion est très intéressante. C'est très intéressant de saisir cette conclusion, mais ce n'est qu'une conclusion. La sagesse revient à la source. Et la source, c'est la parole de Dieu. Si je fais de la théologie, c'est pour que la parole de Dieu, pour moi, prenne toute sa signification, toute sa profondeur. Quand je relis la rencontre de Jésus avec Nicodème, ça me prend une signification merveilleuse. Jésus bouleverse par ce petit dialogue tout ce qu'il y avait de certitude si forte au Sanhédrin, pour rester dans ses conclusions. Pourquoi les théologiens du Sanhédrin ont-ils eu tellement de peine à reconnaître Jésus? C'est qu'ils se réfèrent toujours à la loi et ne veulent pas dépasser la loi. Ils ne veulent pas regarder l'origine de la loi. Moïse est un envoyé de Dieu. Et il nous donne la loi. Et c'est pour ça que Moïse reste le garant et ils ont de la peine à remonter à Abraham. Et lui est le père de la foi. Avant la loi, il y a la foi. La loi, c'est une conclusion, c'est une application de la foi pour nous corriger, nous apprendre à aimer Dieu et aimer notre prochain. Il y a donc là quelque chose de très important pour nous. Et c'est une attitude qu'on doit apprendre à avoir. La théologie est sagesse. Elle n'est pas une science banale, elle est sagesse. Et pour moi, la théologie sera sagesse lorsque devant une conclusion théologique, je ne m'arrêterai pas à la conclusion théologique. Mais la conclusion théologique me servira à retourner à la parole de Dieu et à voir que dans cette parole divine, il y a une intelligibilité merveilleuse. Et cette intelligibilité merveilleuse, je la reçois. Vous voyez, c'est un esprit. C'est un esprit parce que ça n'ajoute rien. Mais ça empêche de rester dans la conclusion. Ça oblige de revenir à la source et de comprendre que c'est la source profonde qui m'intéresse. Et c'est cette source de toute la théologie que j'aime le plus et qui m'intéresse le plus. troisième sagesse, sagesse mystique. C'est toujours une nouvelle manière de connaître Dieu. Il y a trois manières de connaître Dieu. Puis il y a trois sagesses. Une connaissance de Dieu selon ma nature humaine, selon mon intelligence naturelle. Je connais Dieu par analogie. Seconde connaissance de Dieu, par la foi, et dans la foi, par la parole de Dieu. C'est une connaissance acquise. Les deux premières connaissances de Dieu sont acquises. Il y a deux sagesses qui doivent être acquises, et qui peuvent être acquises. Puisqu'elles peuvent être acquises, il faut les acquérir. J'ai un devoir d'acquérir ces deux connaissances de Dieu. J'ai un devoir d'avoir ces deux manières de connaître par sagesse. La troisième connaissance, elle est infuse. Elle est donnée gratuitement. Nous pouvons tous l'avoir si nous sommes en état de grâce, si nous avons la science divine en nous. Cette troisième sagesse, sagesse infuse, relève des dons du Saint-Esprit. Le don de sagesse, le don d'intelligence. Elle se fait à travers la charité, à travers l'amour. Je sais que Dieu m'aime. Et quand Dieu me parle, il m'instruit et il m'attire à lui. Toute parole divine est intelligente pour moi. Toute parole divine exprime l'amour de Dieu pour moi et réalise cet amour. Je peux donc avoir une connaissance mystique de Dieu par le point de vue sapiential.